Dis donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va?
Ben, je te le demande.
Ah ben, si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière?
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Un autre monde est possible, on a failli y croire. Quand je dis « on », je devrais dire 7 714 574 dire électrices et électeurs ont failli y croire. Il manquait juste 420 882 voix. De 3 513 557 bulletins de vote auraient pu choisir une autre voie, un autre destin, mais la division a fait le reste. Mais qui avait intérêt à diviser pour mieux régner? Macron ou Le Pen? Macron et Le Pen. Un deuxième tour avec Mélenchon n'était pas visiblement souhaitable, ni par l'un ni par l'autre, et encore moins par les médias qui nous annoncent depuis plusieurs mois les noms des deux finalistes. Pourquoi voter finalement? Est-ce pour nous ou pour faire plaisir à des médias donneurs de leçons, à défaut de faire leur boulot, celui d'informer et de donner la parole équitablement à toutes et tous? Qu'en sera-t-il dimanche prochain? Les chiens de garde chers à Serge Halimi vont encore s'en donner à cœur joie et aboyer sur celles et ceux qui n'appellent pas clairement à voter pour leur candidat. Comme en 2002 avec Chirac, comme en 2017 avec Macron. Une fois de plus, le débat des idées n'aura pas lieu, et tant pis pour la démocratie. Au terminus des prétentieux, 1009e SMS ce soir, se demande comment on peut voter Mélenchon au premier tour et Le Pen au deuxième. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Sur les 90.0 de Radio B, le 10 avril, 3 513 557 Français se disséminaient. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux, tous les jeudis de 17h15 à sûrement 18h15, voire un peu plus, pour une émission placée sous le signe du souvenir, celui d'un temps où l'émission, qui se déroulait à l'époque le vendredi à 19h, durait 2h et parlait de médias, si le temps le permettait, de musique, obligatoirement, et de cinéma. Et oui, pendant 3 ans, le 7e art avait largement sa place durant la première heure, les sorties nationales, le fameux blind test ou test à l'aveugle pour ceux qui s'excusent pour leur anglais, et non l'inverse, quoique, les films à voir et à ne pas voir à la télévision, et bien évidemment, les bandes originales de films, hein, ce qu'appelle notre invité de ce soir, les ciné-songs. Dans l'émission, elles étaient rarement françaises et sentaient bon Ennio Morricone, Nino Rota, John Barry, Isaac Hayes, Miles Davis ou Bernard Herrmann, voire Björk et les Bee Gees. Plus rarement, les chansons francophones, celles de Jeanne Moreau, Renaud, Georges Brassens ou Yves Montand. Eh bien, ce soir, l'oubli sera réparé. Alors, je vous rassure, il sera aussi question de chansons, qu'elles soient pop ou rock, plutôt francophones, qu'elles appartiennent à Jean-Louis Murat ou à Hubert Mounier. Et à notre invité d'un soir, il vient nous présenter son univers et celui de Stardust Music Agency, organisme qui accompagne les artistes et des projets aussi divers que variés. Ce soir, nous parlerons donc rock, pop, chansons et cinéma, mais pas seulement, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'artiste lyonnais, mais pas seulement, Stan Matisse. Stan, bonsoir.
Bonsoir.
Tu n'as aucun lien de parenté avec Jonathan Matisse?
Non, aucun. Voilà.
Et un lien vous unit pourtant? C'est Frédéric Bobin.
Alors, quel est le lien entre Frédéric Bobin et Johnny Matisse?
Jonathan Matisse.
Ah, Jonathan Matisse.
Ah, Jonathan Matisse. Bah, Jonathan a joué avec Fred il y a quelques années déjà.
Voilà. Ouais. Alors, pardon, tu vois, mon lapsus est révélateur. J'étais parti sur Johnny Matisse, le chanteur anglais.
Non, Jonathan Matisse.
Attends, Jonathan Matisse.
Jonathan Matisse.
Alors, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps.
Ah,
parce qu'il travaille dans un groupe qui s'appelle Caïman, avec qui j'ai fait une interview en commun.
D'accord.
Donc, j'ai appris effectivement que j'avais un homonyme talentueux à la guitare. On n'est pas du tout de la même famille. De sang, mais on est sûrement de la même famille, voilà. De culture.
Moi, j'avais confondu, tu vois, voilà.
Non.
Voilà. Et donc, ta véritable identité n'avait rien d'un nom d'artiste au point que tout le monde t'appelle Stan.
Voilà.
Hein, voilà, on en restera là.
Oui, tout à fait.
Hein, ouais. Bon, j'ai trouvé, hein, mais je ne dirai pas ce soir. Il y a un seul endroit et j'ai trouvé.
D'accord.
Mais bon, on s'en fout ce soir. Voilà, ce soir, tu es Stan Matisse.
Ouais.
Bien, tu seras avec nous jusqu'à 18h15. Pour pas vendre ce... Tu nous parleras du Stan Matisse artiste à travers 4 albums, dont le dernier en date 57-75, sorti le 8 avril 2022, et du Stan Matisse lanceur de projet comme Place Hubert Mounier, Ciné Song volume 1 et Aura et Mura, que nous aurons l'occasion de découvrir. Donc ce soir, Tonio, mon co-animateur, nous a fait faux bond. Il n'a pas osé demander à sortir plus tôt. On croyait qu'il avait envie de parler de la mère Hypatie. Il aurait pu jouer la comédie ou évoquer l'amour en fuite. Le reason why, excuse my French, nous aurait-il répondu, tu vois. Fugitif, moi, tu devrais avoir honte, me répondra-t-il la semaine prochaine. Que veux-tu, c'est physique, organique, entre nous. Hein. C'est ça la beauté des timides. Sans feu, Dieu n'a pas trouvé mieux. On y va, c'est parti. Ma planète est-elle chic ? C'est ce que croyait Clyde Boris en 87 lorsqu'il chanta à la France entière un morceau devenu culte. Amitérien, amitérienne, regardez la boule qui roule sous nos pieds, comment elle tient, quoi qu'il advienne, parce qu'on y tient et qu'on est tous dessus. Hubert Mounier utilisait le « nous » et surtout le « on ». Et force est de constater que 35 ans plus tard, eh bien, notre planète tient toujours debout. Hein, pas sûr que le mot « tenir » à la troisième personne du singulier soit de mise dans les bouches de nos gouvernants. Ce n'est pas une raison pour ne pas danser dessus. En tout cas, en 2019, les protagonistes du projet Place Hubert Mounier s'en sont donnés à cœur joie. Alors que des artistes Radio B, ou presque. Hein, les chics types Stan Matisse, il est avec nous. Joe Bell, Kent, Carmen Maria Vega, Frédéric Bobin, Buridan, Billy, Denis Rivet, Cabane, Nicolas K, Le Voyage de Noz ou They Call Me Rico. Alors toutes et tous n'étaient pas présents sur le clip tourné à Lyon ou alors pas loin. Ah, il n'était pas tout ça, hein.
Non, quasiment. Il y avait une majorité quand même de, d'artistes présents.
J'ai perdu Carmen n'était pas là, non?
Non, pas Carmen.
C'est
hein,
ça, ouais.
Non.
Et voilà. Donc sur les images, on reconnaît nos chouchous Fred Bobin, Denis Rivet, Stéphane Pétrier et désormais Stan Matisse.
Mm-hmm, merci.
Et oui. En tout cas, dès que tu viens ici, t'es nos chouchous. Hein.
Ouais, ouais, si, j'ai bien compris le principe et j'en suis très flatté.
Alors, sur les images, donc, je disais, en tout cas, toutes et tous ont rendu hommage à Hubert Mounier, le chanteur de l'affaire Louise Trio, disparu trop tôt le 2 mai 2016 à l'âge de 53 ans. Les artistes se sont retrouvés autour du projet Place Hubert Mounier, tout d'abord autour d'un disque reprenant quelques-unes des chansons de l'affaire Louise Trio, dont Chic Planète, le morceau culte de ce soir, et de la carrière solo du chanteur. Ensuite, et pas forcément dans l'ordre, hein, tu me diras après Stan, une vraie Place Hubert Mounier dans le 2e arrondissement de Lyon, à l'intersection des rues Casimir Perrier et Antoine Delandine, l'ancienne entrée du marché Gare pour les fans de l'OL que nous ne sommes pas. C'est bon, c'est toujours, elle n'a pas changé.
C'est compliqué.
C'est compliqué,
crois.
J'ai l'impression.
Parce qu'elle n'a toujours pas été inaugurée, cette place, depuis 2017.
Toujours pas. Ouais. Donc, une place qui ressemble à une grande ligne droite, d'après Google Maps, et qui devait être inaugurée donc en novembre 2021. Mais bon, on attend toujours. C'est une question de temps.
2017, puis 19, puis 21, puis je ne sais pas. Ouais. Nous, on n'est pas concernés par ça. C'est-à-dire que quand on a été sollicité pour... Enfin, quand on s'est lancé dans le projet, on a sollicité la ville de Lyon, qui était aussi sur cette commémoration. Donc, l'idée, c'était de faire quelque chose en commun. Nous, on a fait notre travail artistique, donc après, le reste ne nous appartient pas, quoi.
Alors, sans oublier un concert hommage à Hubert Mounier, qui a eu lieu au Transborder de Villeurbanne le 5 novembre 2019.
Oui.
Ah oui. Une soirée gratuite, sur réservation, et qui a bien évidemment fait le salle Clamble.
Oui, tout à fait, ouais. Hein, ouais.
Ouais, gratuite.
1200 personnes.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'était fantastique, un merveilleux souvenir. Ouais.
Un projet initié par Stardust Music Agency, Stan Matisse, les Chic Types aussi,
ouais.
Hein, lors d'une rencontre un soir d'été dans un café de la place des Terreaux à Lyon, si j'ai bien tout entendu.
Et c'est ça, c'est les Chic Types qui sont un groupe de rock français. Et qui
de Lyon.
De Lyon, ouais, de Lyon, et qui m'ont contacté au départ pour travailler via Stardust, qui est une agence d'accompagnement artistique. Nous, on s'occupe de projets émergents, et puis on s'occupe pas mal de booking aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, on papote un petit peu de tout ça, d'où ils en étaient. Ils étaient très fans d'Hubert Mounier, et puis ils me parlent de ce désir de lui rendre hommage. Tu as évoqué la date de son décès, à l'époque où cet événement est arrivé. On était nombreux au sein de la communauté de musiciens et de chanteurs à évidemment échanger là-dessus. Et moi, je me souviens avoir discuté avec Cyril Bonin du Transborder de la possibilité de faire un hommage. À l'époque, Stardust n'existait pas, c'était vraiment en tant que chanteur, et puis c'était l'émotion de l'annonce de cette triste nouvelle. Donc ça a fait écho, en fait, quelques années plus tard, c'était à la rentrée 2018, tu vois, 2 ans après. Et on s'est dit, on est tout à fait en capacité maintenant, avec cette agence d'accompagnement, de faire un album hommage, et puis voyons un peu ce que ça donne, et avec l'idée, de solliciter tout de suite les artistes lyonnais les plus représentatifs pour pouvoir évidemment commémorer la mémoire d'un des artistes les plus influents de la culture lyonnaise aussi. Voilà.
Ah ouais. Donc, Hubert
Mounier, ça s'est lancé comme ça.
Ouais. Voilà. Hubert Mounier, toi, c'est forcément une longue histoire ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment.
Alors, c'est marrant, c'est une histoire d'enfant. Quand j'étais gamin, Hubert Mounier, il venait acheter ses paquets de cigarettes au bureau de tabac de mon père.
Ah.
Donc, ça m'est arrivé de le croiser et j'avais même un autographe d'Hubert Mounier, si tu veux tout savoir. Mais après, au-delà, si tu veux, moi, j'étais gamin à l'époque du Top 50 et de l'émergence de Chic Planète et tout ça. Donc, j'écoutais ça de manière très festive et joyeuse, tu vois. Je devais sûrement danser sur ça avec ma sœur, quoi, à la maison, avec les copains à la cour de récré, quoi. Mais ça fait pas vraiment partie de mes influences musicales, artistiques, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à jouer de la guitare et quand j'ai commencé à faire mes premiers groupes. Toutefois, j'ai toujours bien apprécié son travail d'artiste solo avec Benjamin Biolay, qui est un artiste aussi que j'ai toujours un peu suivi. J'ai travaillé aussi avec des musiciens ayant accompagné Benjamin Biolay. Donc on était sur quelque chose là qui me ressemblait un peu plus. Mais je ne peux pas dire que ça fasse vraiment partie de mes influences, non.
Tu l'as rencontré déjà ? Tu as eu l'occasion de rencontrer entre artistes ? Jamais.
Hubert Mounier, non, je ne l'avais jamais rencontré.
Ah ouais, jamais.
Non,
ah ouais,
non,
d'accord.
Voilà. Si ce n'est, tu vois, derrière.
Il était toujours sur Lyon ou pas après ?
Alors, il est parti vivre en Ardèche les dernières années de sa vie. Il avait un peu refait sa vie et
il
vivait en Ardèche. Ouais.
D'accord, ok. Donc, l'album de reprise, alors comment s'est fait le choix des artistes et des chansons ? C'est du copinage, ça ?
Bah écoute, moi je fais de la musique depuis 20 ans, donc forcément, au bout d'un moment, il y a des copains et des relations qui se créent. Et c'est un peu un réseau, on en parlait un peu hors antenne, c'est comme ça aussi qu'on avance tous, chacun sur ses réseaux aussi, puis je pense que c'est pareil partout, dans tous les métiers, qu'est-ce que tu veux. Donc c'est ça, c'est les relations et les rencontres, quoi. Donc évidemment, spontanément, j'ai eu tout de suite une très très bonne vision des artistes qu'on allait solliciter pour ce projet-là, mais je ne me suis pas cantonné, tu vois, aux copains. Il se trouve que ce sont des artistes aussi qui ont leur crédibilité, leur parcours, leur histoire. Donc j'ai évidemment, puisque j'ai été chargé un peu de m'occuper de la partie artistique de ce projet, parce qu'au sein de Stardust, on est plusieurs personnes à travailler. Bon, moi, je m'occupe forcément de la partie artistique, puisque je suis aussi musicien et chanteur, donc je fais cette direction-là. Et on a cherché vraiment à solliciter les artistes les plus emblématiques, tu vois. Bon, il se trouve que j'en connaissais la plupart, mais pas tous, hein, voilà. Donc c'était un vrai bonheur. L'émulation, c'est vraiment très bien fait. Tout le monde a dit oui, tu vois. Je crois que tous ceux qu'on a sollicités ont dit oui. Donc on a même eu des candidatures spontanées aussi, tu vois. Donc c'était super, quoi. Après, on était cantonné à la possibilité de faire un album. Donc il y a 14 titres dessus, si ma mémoire est bonne. Et, donc il y a une vingtaine d'artistes dessus, quoi.
D'accord. Et lors du le concert hommage au Transport de Villeurbanne, il s'est déroulé comme tu le souhaitais. Il manquait personne sur scène.
Il manquait.
Je pense à Benjamin Biolay. Il n'était pas là.
Ah non. Alors Benjamin Biolay.
Il n'a pas participé, mais non. Il aurait pu, non?
Non. Le projet c'était vraiment de faire un focus sur les artistes de la scène lyonnaise, mais qui restent, tu vois. Non, mais j'allais dire
abordable.
Un peu, non, mais la scène indépendante, tu veux, tu vois. Il y avait, oui, certes, sûrement une dimension un peu côté abordable, parce que nous on est une agence d'accompagnement régionale, donc
pour lui quand même
la vraie raison c'est pas ça, c'est non. Que en fait cette fameuse conversation là que j'évoquais tout à l'heure avec les Chic Types, elle a été la conséquence aussi d'un hommage qu'a rendu Benjamin Biolay à Hubert Mounier aux Nuits de Fourvière à l'été 2018. Donc en fait, si tu veux, nous on s'est rendu compte que chez les fans il y avait une vraie attente d'hommage local. Que ce concert hommage de Benjamin Biolay, c'était un peu l'hommage officiel, si tu veux, tu vois, j'allais dire l'hommage national,
lyonnais aussi,
tu vois ce que je veux dire, d'après les fans, pas suffisamment lyonnais. Donc si tu veux, on s'est dit jouons la carte lyonnaise, tu vois, et excluons de fait les artistes qui
sont partis à Paris,
mais qu'on n'a pas besoin des Lyonnais pour rendre hommage. Exactement, en fait. Et puis Benjamin Biolay, il avait un lien très particulier avec Hubert Mounier, donc ça dépassait le cadre de notre projet, si tu veux. C'était pas forcément cohérent, donc
Donc place Hubert Mounier, donc tu dis, n'est pas seulement le nom du projet de l'album qui a suivi, donc la place, on attend donc la date officielle de, mais elle aura lieu un jour.
J'en sais rien.
Ah ouais. Parce que le changement de gouvernement de mairie a fait.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses compliquées, mais ça m'appartient pas. On a rencontré tous les élus de l'époque qui sont plus les mêmes aujourd'hui. Si tu veux, au départ, ils voulaient qu'on attende l'inauguration de la place pour faire un concert. Donc on a bien fait de refuser, tu vois.
Et
Donc, si tu veux, je regarde ça d'un œil mélancolique maintenant pour moi. Ouais. C'est un peu passé, quoi. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure. Ma mission, elle était artistique. Nous, on avait un vrai projet. La mission de Stardust, au sens large, elle était promotionnelle. Elle était de faire vivre la mémoire et de l'honorer, d'en parler beaucoup aussi. Ça a beaucoup bougé sur localement, en fait, sur ce projet. On a fait, je pense, le mieux qu'on pouvait pour ça. Moi, le reste ne m'appartient pas, quoi.
Comment vit l'album, justement, Hubert Mounier? Place Hubert Mounier, comment il vit cet album ?
Il vit comme, il vit comme les albums un peu indépendants. Non, il y a eu un énorme écho à l'époque de sa conception, de sa réalisation, de sa sortie, du concert hommage. Il y avait beaucoup de programmateurs qui étaient très, très intéressés à l'idée de nous programmer sur d'autres dates. Tu vois, il y avait vraiment un écho. Mmh. Et puis, en fait, il y a une chose très simple, hein, novembre 2019, mars 2020, pandémie, et donc il n'y a plus de concerts.
Et donc, à autre chose.
Et ouais, finalement, ce projet, il n'a pas, eu la pérennité qu'il était prêt à prendre, mais il n'était pas prévu pour non plus, si tu veux. Tu vois, on avait vraiment l'ambition. Mais bon, on aurait été ravis de pouvoir pérenniser un petit peu tout ça, mais... Mais on ne l'avait pas conçu comme ça aussi, donc ça crée d'autres problématiques en termes de disponibilité d'artistes ou de parti pris artistique. Enfin, c'était un projet qui était très calibré, en fait. Ouais.
Bien, allez, il est l'heure de changer de place. Près de la place de la commune à Bourg-en-Bresse se trouvent les locaux de la plus belle des radios, hein, juste à côté de l'impasse Barra. Bienvenue au Terminus des Prétentieux sur Radio B. Il est 17h passé de 36 minutes sur les 90.0 de Radio B, ou alors, comme le dirait si bien Tonio qui n'est pas là ce soir, 9h21. Eh oui, il faut comprendre, si vous écoutez la rediffusion du vendredi à partir de 9h ou 14h, si vous écoutez la rediffusion du samedi à partir de 14h. Voilà. Ce soir, nous accueillons l'artiste lyonnais Stan Matisse, qui a sorti le 8 avril 2022 son quatrième album studio 57-75. Il vient aussi nous parler de ses autres et différents projets initiés avec Stardust, que ce soit Place Hubert Mounier, Ciné Song volume 1 et Aura M. Murat. Des projets où la guitare est présente, mais moins on dira que sur tes disques sous ton nom d'artiste. Et surtout des guitares moins fortes, moins énervées, quoique. Alors, qui dit guitare forte et énervée dit forcément rock. Toi, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit, comme Obélix dans la potion magique. Hein. Quel groupe t'a donné envie de jouer du rock?
Il
manquait le micro.
Voilà, moi j'écoutais beaucoup de musique à la maison. J'ai fait une petite allusion tout à l'heure à l'époque Top 50, tu vois, où il y avait vraiment de la musique partout, à la télé, à la radio, on baignait là-dedans. Mais mon premier vrai souvenir vraiment très, très marquant, c'est à l'adolescence, en fait. Quand on commence à s'acheter soi-même ses propres disques, tu vois. Donc, j'ai un souvenir, moi, très précis et auquel je rends hommage un peu dans l'album, justement. C'est vraiment le jour où j'ai un copain, j'étais au collège, qui me passe une cassette audio, tu vois, et il me dit « Ah tiens, je t'ai copié un truc, là, je viens d'écouter cet album, c'est génial ». J'ai mis ça dans mon Walkman, dans le métro, tu vois, métro, mon plaisir, lumière, et justement pas loin de l'Institut Lumière, et bam, c'était Nirvana, Nevermind. Et là, j'ai eu l'impression effectivement qu'il m'arrivait une sorte d'électrocution, tu vois, et donc je me suis pas forcément remis, voilà. Donc j'écoute pas que ça, j'écoute et j'aime des millions d'autres choses, j'adorais aussi déjà des choses avant, mais ce moment-là, il s'est passé un truc, quoi, je me suis dit, bah tiens, là, il y a une résonance, une espèce d'urgence qui me plaît. Et le son qui allait avec, la mythologie qui allait avec, et qui correspond d'ailleurs un peu à l'histoire du rock. Hein. On la retrouve chez les Rolling Stones, chez Led Zeppelin, chez Jimi Hendrix bien avant, Nirvana, les années 90. Donc voilà, j'ai remonté un peu tout ça. On peut dire que voilà, c'est vraiment ça ma culture de référence. Ouais.
Plutôt rock anglo-saxonne.
Ah oui, alors rock anglo-saxon quasi majoritairement. Ouais. J'ai écouté beaucoup plus tard du rock un peu français, alors Noir Désir, Bachung... Mmh. Et cher Aubert, alors j'aimais beaucoup la variété française aussi, hein, et je continue d'ailleurs.
Oui, tu parles d'Aubert, effectivement. Ouais.
Oui, alors voilà, tu vois, Aubert, pour moi, c'est moins variété que, par exemple, Alain Souchon ou Cabrel ou Goldman, que j'ai beaucoup écouté aussi, que j'écoute encore, hein, ces artistes-là.
Même Goldman.
Ouais, tout le monde déteste Goldman, alors pas moi.
Voilà. D'accord. T'assumes.
Alors, j'assume parce que j'ai toujours écouté Goldman et en fait, plus j'entends qu'il est détesté, et finalement, et plus je vieillis, plus je me dis qu'il faut le dire aussi. Je trouve ça complètement. Bon, étonnant, ouais. J'ai failli dire autre chose.
T'as un esprit de contradiction qui fait que... Allez.
Ouais. Mais voilà. Non, mais parce que quand quelque chose t'a marqué, bah tant pis si les autres détestent. Enfin, moi, ça m'a construit d'une certaine manière.
Puis t'écoutes tellement d'autres choses qu'on peut te pardonner juste pour chacun fait ses erreurs. Hein. Il y en a, c'est Moran, d'autres c'est Madonna, voilà. Bah, d'autres c'est Goldman, voilà.
Hein. Ouais, c'est-à-dire que les gens qui trouvent que ce que je suis en train de dire est ridicule se ridiculisent peut-être dans d'autres domaines, tu vois. J'en sais rien.
Voilà.
Donc
exactement.
Et puis on fait pas une compète, quoi. C'est
non, mais il y a juste des gros mots ici. Il y a juste des gros mots, quoi. Voilà. C'est, voilà.
Non, mais bon. Voilà. Ça, c'est très relatif.
Mais bien sûr, bien sûr. Donc, bon, évidemment, la musique, toi, t'es comme assez branché guitare, donc
oui.
La guitare est arrivée assez tôt ou pas trop finalement ?
À jouer ?
Oui, à jouer. Ah bah oui, à jouer.
Ah ben, après cette expérience de Walkman nirvanesque, j'ai commencé à jouer de la guitare.
D'accord.
Et
mais pas de la guitare classique, quoi, de la guitare...
J'ai eu une expérience assez malheureuse, parce que je voulais jouer de la guitare, puis mes parents m'ont acheté une guitare classique, justement.
Ah oui, bah oui.
Je ne retrouverai pas les sons du Walkman, si tu veux. Donc j'ai arrêté au bout d'un an, quand même, parce que j'ai quand même continué, et une saison, et puis je m'y suis remis après au lycée. Voilà. Et là, au lycée, groupe de rock avec les copains, guitare électrique, et puis les débuts comme des dizaines et des dizaines de gens par l'envie l'envie de ressentir le plaisir qu'on ressent en écoutant de la musique. Moi, c'est vraiment ça, si tu veux. La sensation que j'avais en écoutant des disques, elle me faisait tellement de bien que j'avais envie de la ressentir toute la journée. Et au bout d'un moment, à force d'écouter des disques, j'avais envie de la retrouver en faisant autre chose, donc en jouant de la musique. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne solution pour faire autre chose qui me fasse ressentir la même chose. C'est un peu l'idée.
Donc beaucoup de groupes de reprises ?
Alors j'ai commencé comme ça, ouais, effectivement. Mes premiers groupes, bon, alors, j'exclus les groupes de copains, de lycée
mais
où on faisait un peu notre propre tambouille. Mais après, ouais, j'ai poursuivi là-dedans et je me suis orienté effectivement en tant que guitariste accompagnateur, tu vois, guitariste rythmique ou guitariste solo, dans les groupes de reprises. Donc petites annonces, recrutement, audition. Et j'ai fait ça pendant 10 ans après.
D'accord, voilà.
Dans plein de groupes, ouais, différents.
Reprises de vies diverses et variées,
alors,
évidemment.
Voilà, c'était l'époque de Nirvana, Radiohead, Oasis, Ben Harper, Jeff Buckley, on prenait ça.
Ah oui, c'était pas n'importe quoi quand même.
Ah non, c'était très orienté rock de l'époque. Et puis, aussi, il y avait aussi du classique rock, j'en parlais tout à l'heure.
Anglo-saxon aussi.
Oui, alors essentiellement, Stones, Led Zeppelin aussi, enfin tout ça, quoi, toutes ces années, ce rock des années 70. Ouais. On faisait très très peu de français. On faisait peu de français. On devait faire un titre de Bachung, un titre de Noir Désir, tu vois. Voilà, je sais que sur la fin, un des derniers groupes de reprises que j'ai eu, je chantais moi et j'étais chanteur sur le dernier, ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour la suite. Et j'ai pas vraiment le souvenir de faire de titres en français, non, tu vois, ça m'en revient pas.
Alors pourquoi on te retrouve en 2013 avec un premier album en chantant en français déjà ?
Eh bien, ouais, effectivement, bah parce que parallèlement cette dizaine d'années de musiciens accompagnateurs et de groupes de reprises, j'écrivais des chansons. Et en fait, c'est l'écriture qui m'a amené au français parce que je ne sais pas écrire en anglais, en fait. Voilà, je suis très mauvais
en anglais. Tu as pris l'école en anglais, tu as pris l'anglais à l'école,
Alors,
c'est pour
ça. Parler de l'enseignement de l'anglais, des langues vivantes dans l'éducation nationale. En l'occurrence, chez moi, ça n'a pas marché, mais peut-être parce que j'étais un mauvais élève. Hein. C'est pas forcément toujours de la faute des autres, tu vois. Donc, je veux bien admettre que c'est sûrement de ma faute. Mais en tout cas, le fait est que j'étais et je suis toujours inapte à écrire en anglais. Donc, ayant commencé comme ça à écrire des chansons, ces chansons venaient spontanément en français. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça hyper intéressant de composer, c'est-à-dire d'écrire un texte sur une musique. Je trouvais ça super nouveau, ça me plaisait. Je trouvais ça différent de ce que je faisais, tu vois, à m'infuser des gammes et des riffs 2 heures par jour pour répéter les morceaux. Je trouvais ça un peu récréatif, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire ça, mais c'était bien évidemment des chansons que je ne pouvais pas chanter dans le répertoire que je faisais, tu vois. Donc, je gardais ça de côté, en fait.
Pendant longtemps, alors ?
Alors, ouais, ça a dû se passer peut-être les 3-4 dernières années où je faisais des groupes, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, après, il y a eu un moment où entre deux groupes, il devait se passer peut-être 2 mois, puis après 6 mois. Puis après, il y a eu un moment où il y a eu un an où j'ai plus eu de projet. Et je me suis mis à maqueter ces chansons-là. En fait, ça devait être autour de 2011-2012, tu vois. Et ça a donné ensuite naissance à mon premier album, ouais. Voilà. Donc c'est arrivé vraiment complètement par hasard. Ouais.
Qui s'appelle Centre-Ville.
Voilà. Ouais, Centre-Ville en 2013, ouais.
J'ai lu quelque part que t'étais un urbain, toi.
Ah, tout à fait, ouais. Moi, je suis lyonnais, voilà. Ouais. Et je suis né à Lyon, je vis à Lyon et j'adore la ville.
Même tout à l'heure, t'es venu à Bourg pour marcher dans une ville.
Et
quoi.
Tu vois, j'aime tellement la ville que même campagne. Quand je viens dans une autre ville, comme Bourg-en-Bresse, et ben, je prends quand même un quart d'heure pour marcher dans la ville avant de venir au studio de Radio B, ouais, effectivement.
Donc, le premier album, Centre-Ville, en 2013. Toi, t'es réglé comme du papier à musique, hein, tous les trois ans.
Ouais, alors, hélas, c'est pas volontaire, mais.
Plutôt pour le dernier, oui. Ouais. Alors, il aurait pu sortir plus tôt, c'est ça, le dernier.
Alors, oui et non, mais en fait, la vraie raison pour laquelle il se passe autant de temps entre les disques, c'est que je mets beaucoup de temps à écrire des textes.
Oui, mais.
Donc, si j'arrivais à écrire beaucoup plus vite, je pense que je serais en capacité de sortir un album plus tôt.
Non, mais c'est surtout que c'est tous les trois ans, c'est pile.
Oui, mais c'est pas
exprès.
Ouais,
c'est même pas exprès.
Ah non, il y a un vrai cycle naturel. Alors après, tu sais, quand on sort un disque, même à mon niveau en tant qu'artiste indépendant, on le défend sur scène quand même un petit moment. Donc, ça prend, le moment où tu sors l'album, après. On est accaparé peut-être, je ne sais pas, une bonne année sur ça. Donc après, on se remet à écrire. Donc finalement, voilà, on va dire qu'il y a deux ans de travail.
Tout le monde n'est pas Jean-Louis Murat, hein.
Ouais, voilà, qui sort des albums tout le temps, lui. Donc,
c'est un peu calmé, je trouve.
Ouais. Donc je me suis rendu compte que c'était toujours trop long et qu'en fait, c'était toujours trois ans. C'est vrai que je ne fais pas exprêt, hein, tu vois, voilà. Mais celui-là n'aurait pas été prêt avant, hein, non plus, tu vois. Il n'a pas été ralenti par la pandémie. Je l'ai lancé plutôt prévu parce que comme on était tous au chômage technique, il fallait bien faire des trucs, donc voilà. Mais j'ai mis... c'était très exhaustif, l'écriture des textes, ouais.
Donc, j'imagine des albums où les guitares sont toujours présentes, y compris sur l'avant-dernier. Parce que j'ai compris que l'avant-dernier était peut-être moins rock.
Ben écoute, étonnamment, quand j'ai sorti mes propres disques solo, les deux premiers étaient un peu plus pop, si tu veux, un peu moins guitare. Il y avait les guitares, bien sûr, mais c'était un peu plus acoustique, un peu plus feutré, tu vois. On parlait pas mal de Escher ou de Palmas en français, tu vois. Bon, voilà.
Moi, c'est pas sympa pour Escher, je trouve. Mais bon. Oui, vas-y, continue. Oui,
et
oui.
et donc, tu vois,
oui,
c'était dans une veine différente de ce que je faisais moi avant. Donc, ça me plaisait aussi de faire ça. Et j'ai fait un deuxième album dans la même veine que Centre-Ville, dont je suis très, 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 très fier aussi parce qu'il sonne très pop, mais vraiment dans l'esprit de ce que je voulais à l'époque. Et puis, c'est intéressant aussi, en tant qu'artiste indé, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que ça marque vraiment une différence qui donne de la liberté. L'avantage de l'artiste indépendant, c'est qu'il est moins attendu qu'un artiste signé par le public, par la pression médiatique ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr, ça peut être un peu dommage parce qu'on aimerait bien aussi pouvoir parfois bénéficier des avantages des artistes plus connus. Mais la qualité que ça nous donne, l'ouverture que ça nous donne, c'est la possibilité de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et moi, je trouve que justement, au lieu de vouloir imiter et singer les artistes connus en faisant les mêmes disques qu'eux ou des disques dans la même veine qu'eux, ça peut être intéressant d'utiliser chaque projet pour se balader dans un univers un peu différent. Donc, tu vois, moi, j'ai fait... les deux premiers étaient un peu pop-rock. Quand j'ai compris ça à la fin du premier, j'ai fait un deuxième vraiment très pop, assumé. Le troisième, qui est sorti en 2019, était volontairement un contre-pied de tout ça, parce que c'est un album qui est un peu électro-rock, alors de manière très légère, hein, ça reste quand même des chansons. Tu vois, la connotation générale, c'est quand même qu'on a affaire à la chanson française. Mais il y avait quand même un peu une texture électro-rock, parce que j'avais travaillé avec un arrangeur vraiment dans cet esprit-là, à Lyon, qui s'appelle Johan Putet. Et sur cet album-là qui vient de sortir, je voulais que ce soit très rock et qu'il y ait plein de guitares parce qu'il n'y en avait pas eu assez sur le précédent. Tu vois. Mais le prochain sera peut-être différent encore. Je trouve ça intéressant de varier les plaisirs.
Donc cet album s'appelle 5775, sorti le 8 avril 2022, la semaine dernière.
Exactement.
Oui, la semaine dernière.
Tout à fait.
Oui. Donc avant d'écouter le premier morceau, Excuse My French. 57-75, alors c'est un rapport avec des années, ça
Non, pas du tout.
Alors, ça pourrait être quoi? Par rapport à des artistes?
Non plus.
ça veut dire quelque chose, j'imagine?
Non.
Non.
Non, ça m'intéressait d'avoir ce... Alors, ça s'appelle un palindrome. C'est quand quelque chose qui s'écrit de la même manière gauche à droite et de
comme
droite à
ananas, ouais.
Voilà.
Voilà. Oui,
non.
C'est ça, ouais.
Non, pas ananas.
Non,
non. Non. Bon, en tout cas, là, 57-75, ça se lit de la même manière dans les deux cas. Et histoire d'être un peu original, j'avais envie que ce soit des chiffres et pas un mot. Tu vois, bon, c'est tout bête. Hein. Bon, c'était histoire d'avoir un truc avec un peu d'impact. Et puis parce que l'album est aussi construit à travers une espèce de petite architecture comme ça, où il y a une espèce de triptyque, il y a une chanson rock en colère, une chanson rock un peu joyeuse et une chanson très intimiste. Et ce cycle de trois se répète. Donc il y avait un petit truc comme ça, un peu mathématique. C'est arrivé un peu par hasard quand, j'ai mis l'ordre. Non, pas tant que ça, mais là...
Tous les trois ans, mathématiques...
Ouais, ouais. Ah ben oui, on va
croire. T'as un bac S, toi, c'est pour ça ?
Même pas, non. Non. Bon, mais voilà. Mais donc, c'est pour ça que le titre numérique me semblait cohérent.
D'accord, bien. Eh bien voilà. On va écouter le single qui est sorti, qui s'appelle Excuse My French. Stan Matisse. My French, Stan Matisse, extrait de son nouvel album, le quatrième, 57-75, paru le 8 avril 2022. Bon, rien à voir avec le fait que tu parles mal l'anglais, hein, c'est ça ? Enfin, non, Excuse My French, ça veut dire autre chose. Ouais.
Et ben, au tout départ, il y avait un lien, au tout départ, je voulais écrire une chanson qui revendiquait le fait de chanter en français.
Ouais,
parce que
ça,
le temps passant, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire en français et je pense développer beaucoup de centres d'intérêt autour de cette activité-là. Et je me suis rendu compte aussi, notamment avec mon activité au sein de Stardust, que c'était encore une fois une responsabilité un peu d'artiste indépendant de ne pas avoir peur de chanter dans, en français, parce que ça donnait une corde supplémentaire à nos arcs, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer ce qu'on pense. Mmh. Ce qu'on ne fait pas en anglais, parce que le texte anglais... Alors, il y a plein d'artistes qui anglo-saxons qui utilisent cette corde à leur arc pour dire des choses, mais
en France, ouais, c'est...
Ouais,
c'est
le texte anglo-saxon, ouais. Il est volontairement sonore, si tu veux. C'est aussi une imbrication musicale plus qu'un propos. Tu vois, souvent. C'est pas systématique, on est bien d'accord. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, les jeunes artistes qui commencent à chanter en anglais, c'est certainement pas parce qu'ils veulent dire des choses, parce qu'ils ont un message. C'est d'abord parce qu'ils veulent imiter les gens les plus célèbres et ils veulent faire pareil, quoi. Mm-hmm. Et je trouve ça, mais tellement dommage, tellement. Voilà, moi-même, hein, j'ai aussi copié des trucs. C'est aussi un constat que je tire de ma propre expérience sur d'autres sujets, hein, tu vois. Et je me dis que la langue française nous donne cet atout-là. Et qu'on doit vraiment, vraiment, vraiment revendiquer ça, et que c'est pas possible quand on est un artiste indépendant d'essayer d'imiter en moins bien les artistes célèbres, et, ou parfois même en mieux d'ailleurs, mais là n'est pas la question. L'imitation, c'est certainement pas de l'art, quoi. Mm-hmm. Et si on fait une proposition artistique, quelle qu'en soit sa valeur, il faut au moins qu'elle soit singulière, quoi, et qu'elle soit personnelle. Et donc la langue française permet cela, ou alors à défaut une autre langue, mais qui dise quelque chose, quoi, qui est vraiment un contenu. Ça me semble fondamental. Voilà. Donc, c'était l'idée de dire ça. Et finalement, le texte parle d'autre chose, finalement. Ouais. C'est un peu un texte sur de colère, sur les apparences, si tu veux, sur les postures comme ça, faciles, sur le superficiel. Voilà. Donc, le « excuse my French », c'est un peu la question de la franchise, au fond. Tu vois, il y a un lien comme ça.
Mmh. Voilà. Ouais. Donc, un album, tu t'es donné les moyens quand même, là, parce que tu as... Enfin, je ne sais pas si... Financièrement, tu as mis les moyens, mais...
Non, pas plus qu'un autre artiste.
Mais tu t'es entouré de pointures.
Ça aussi.
De quelques pointures, quand même.
De la même manière que ce que je disais tout à l'heure, enfin, il y a un instant, sur le texte en français, c'est aussi une passion de musicien. C'est-à-dire que... il est tout à fait logique que d'être un passionné de musique... sans forcément être un instrumentiste, tu vois, sans forcément en faire l'auditeur dans toute sa noblesse, quoi, tu vois, mm-hmm. et sa valeur. Mais la réciproque me semble pas vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musicien qui soit pas passionné par la musique, ou alors à ce moment-là, c'est des fakes, quoi, tu vois, c'est des gens qui sont là pour la posture, quoi, les apparences. Si on est musicien, c'est parce qu'on a été aussi traversé par de la musique qu'on a écoutée. Même si, voilà, je le disais, on peut très bien être passionné par ça sans aller jusqu'à faire de la musique. Mais du coup, moi, en tant que musicien, ce qui me passionne au bout d'un moment, c'est quand même de rencontrer les gens qui m'ont fait vibrer quand j'écoutais des disques, quoi, tu vois. Si c'est pour faire ma propre musique moi-même, en tant que musicien indépendant, la question se poserait de savoir pourquoi la diffuser à ce moment-là, tu vois. Je peux très bien continuer à la faire chez moi, je m'entendrai très bien, hein, dans mon propre salon. Donc à partir du moment où elle est diffusée, il y a deux choses qui se posent. C'est la qualité du résultat, c'est-à-dire la qualité professionnelle de ce qu'on va faire écouter à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et ça, c'est un critère qu'on oublie très souvent aussi, hein, quand on est artiste, parce que ce qu'on veut, c'est tout de suite faire des trucs et s'exprimer, en fait. Mais ça, c'est pas suffisant, en fait. Et la deuxième chose, c'est aussi l'expérience, vivre des moments qu'on n'aurait pas la chance de vivre dans la vie ordinaire. Mmh. Donc, travailler avec des artistes connus, renommés, c'est d'abord... le bonheur de les voir travailler et de les regarder bosser et de comprendre à quel point ils sont humbles, sensibles, adaptatifs à nos conditions. Mm-hmm. Tu faisais sous-entendu des conditions financières. Je le redis, hein, il n'y a pas de différence avec les autres albums des autres artistes qui viennent là chaque semaine dans ton émission. Parce que ces artistes-là, ils s'adaptent à ma demande. Ils savent très bien, ou je leur explique en tout cas, que je ne peux pas faire autrement, moi, et que je les sollicite quand même par passion, et que j'ai quand même une exigence artistique à leur soumettre, l'idée que ça sonne bien, ce que je disais tout à l'heure, et que cet engagement-là, via maintenant un parcours, un petit parcours, mais qui existe quand même, que je peux revendiquer, qui donne des garanties quand même aux gens que je sollicite. Donc, sur cet album, j'avais déjà fait un album où j'avais sollicité des artistes dans cette perspective, tu vois, et qui étaient venus favorablement, comme Yann Péchin, le guitariste d'Alain Bachung, Christophe Deschamps, qui a longtemps accompagné Jean-Jacques Goldman, mais aussi Philippe Almosnino, tu vois, qui jouait avec Benjamin Biolay, j'en parlais tout à l'heure. Donc j'avais déjà cette connexion-là, et ça s'était passé aussi. Mais faut savoir aussi qu'il y a plein d'artistes qui me disent non, hein, c'est normal, quoi, c'est le jeu. Mmh. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les albums des autres, il n'y aura jamais aucun artiste de ce style si la demande n'est pas faite, quoi. Tu vois, donc la première chose à faire pour rencontrer ces gens-là, c'est d'abord de les contacter, en fait, et de les solliciter. Certains disent non, certains disent avoir, d'autres disent oui, d'autres viennent gratuitement même, tu vois. Donc on est loin, loin, loin de ce que j'entends parfois. Je te fais une réponse très longue, je m'en excuse, mais parce qu'effectivement, de temps en temps, j'entends un peu ça, quoi, tu vois, que je me fais mousser à peu de frais en me payant un artiste célèbre, tu vois.
D'accord.
Donc je ne me paye rien du tout, en fait, puisque certains viennent même gratuitement. Et je sais très bien ce que ça coûte, et ça coûte, je le redis, parfois beaucoup moins cher que ce que dépensent d'autres à côté de moi, quoi. Et je ne me fais pas mousser du tout, parce que je le fais parfois même sans communiquer là-dessus. Et c'est surtout qu'en les regardant travailler, je vis des émotions et des sensations incomparables. Incomparables. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi je me priverais de ces moments sacrés en tant que passionné de musique, parce que ça dénote, tu vois. Mmh. Voilà.
Bien. Réponse est faite.
Ouais, voilà. Tu sens un peu, effectivement, qu'il y a de l'enjeu sur ce sujet-là, mais on en arrive,
voilà.
En fait...
T'as invité qui, finalement ?
On en arrive au contraire, tu vois, de ce qui est la raison d'être de la musique, quoi. C'est-à-dire le plaisir, si tu veux, tu vois. Voilà.
Voilà, le plaisir t'a amené à inviter qui, alors ?
Sur ce projet, donc, il y a Yarol Poupeau, qui est venu faire deux titres à la guitare. Mm-hmm. Il y a aussi Michel-Yves Cauchemann, qui est guitariste d'Alain Souchon, pareil, qui a fait deux autres titres à la guitare. Et puis, il y a également Nicolas Musset, qui est batteur, avec qui j'ai pas mal fait de titres sur des projets précédents. Et Jérôme Arrigui aussi. Et puis surtout, l'album, il a été enregistré et mixé essentiellement, alors pas exclusivement, mais essentiellement au studio Labomatique avec Dominique Blanc-Francard. Voilà.
Voilà. Tout à l'heure, on parlait de... Ouais, parce que l'heure tourne. Putain de Matisse, s'il avait qu'un projet, ce serait pas bien pratique pour nous. Mais malheureusement, c'est toujours pareil. On n'avait qu'un invité plus tôt. Voilà, et on aurait eu plus de temps de développer. Mais là, on t'inviterait une prochaine
fois.
Tu reviendras. Il y a un projet dont on a parlé en début d'émission. On va vaguement sans en parler. C'est le fameux Ciné Song volume 1, sorti en 2021. Donc ça veut dire Stan Matisse, El Cinéma... T'as une acquaintance particulière avec le cinéma, quoi.
Ah oui, alors à titre personnel, voilà, ouais, je suis passionné par le cinéma.
Alors pourquoi cette envie de faire pourquoi, quelle idée, voilà.
Après le projet Hubert Mounier, dont on parlait tout à l'heure, on s'est dit avec l'équipe Stardust qu'on avait vécu vraiment des moments géniaux, tu vois. On revient toujours à ça, en fait. Nous, on avait vocation à accompagner des jeunes artistes, et là on s'est occupé d'une quinzaine d'artistes confirmés. Ça a fini au Transborder, salle comble, donc ça dépassait un peu nos prérogatives. Mais c'était génial, quoi. Donc on s'est dit, mais pourquoi on s'interdirait de refaire un truc pareil ? Donc on s'est mis en quête d'un nouveau projet permettant de ressentir à nouveau des émotions fortes, tu vois. C'est vraiment, je comprends pas comment ça puisse pas être le dénominateur commun de tout le monde, ça. Donc, entre autres idées, est arrivée l'idée de faire quelque chose en rapport avec l'Institut Lumière, qui est quand même une éminence, voilà, sur Lyon, avec Thierry Frémaux, qui s'occupe aussi du Festival de Cannes. Donc, on s'est dit, on va faire un album de chansons. Donc, on leur a soumis l'idée. Mm-hmm. Donc, ils étaient OK pour qu'on le fasse. Voilà. Donc, rebelote, on a, avec Frédéric Bobin, qui a regardé aussi avec moi la liste des références, tu vois. On a potassé un peu tout ça, on a trouvé plein de rêves, parce que lui aussi, c'est un grand, grand fan de ciné. On a des conversations qui n'en finissent plus à ce sujet, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et on a trouvé, tu vois, 75 références, je crois. Tu vois, voilà. Donc, on va faire un volume.
En français. La référence, c'était quoi ? C'était des films français chantés en français, c'est ça, les deux ?
Voilà, le cahier des charges de l'Institut Lumière, c'était de faire un hommage au cinéma français. Donc, il faut que ce soit des chansons qui...
Français ou francophone ?
Oui, francophone, tu as raison, qui fasse partie de films francophones. Donc, on a fait un premier volume de 10 titres et on est en train de préparer le nouveau volume 2, du coup, avec une douzaine de titres là. Et ces projets sortent à chaque fois lors du Festival Lumière qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Voilà. Donc, ce qui donne l'occasion aussi à ce qu'on fasse plein de représentations scéniques au village de l'Institut Lumière ou dans d'autres lieux un peu partenaires, tu vois. Donc, comme au Nicasie ou au Melville, des choses comme ça, ou à la Commune aussi. Donc, on est en pleine préparation de ce volume 2-là. Voilà. Il y aura peut-être des surprises.
On va en découvrir un extrait, puis on en parlera après, parce qu'il y a plein de chansons à raconter.
Ouais.
Évidemment, c'est un extrait où tu interviens parce que tu interviens. Est-ce que
c'est ma soirée.
C'est pas obligatoire, mais pour toi, c'est évident que tu interviennes en tant qu'artiste.
Ah non, pas du tout. Non. Je ne serais pas présent sur le volume 2, par exemple. Tu vois, voilà.
D'accord.
Non, pour Place Hubert Mounier, effectivement, ça me paraissait cohérent. Pour le Ciné Songs, aussi.
Aura FM. Mais... Aura et Mura. Aura pas mal aussi.
Non. C'est, en tout cas, c'est vrai que oui, sur les trois projets, ça, j'y apparais trois fois, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que sur le volume 2, là, ce ne sera pas le cas. Et on est sur
trois fois sur trois, mais ce n'est pas systématique.
Non, mais ce sera trois fois sur cinq, parce qu'en fait, on est déjà sur un autre projet depuis un moment.
D'accord.
Qui a pris beaucoup de retard et voilà, sur lequel je ne participe pas. Voilà. Où j'aurais pu participer, mais l'idée, ce n'est pas que ce soit systématique. Ceci dit, tu constateras également que Frédéric Bobin, qui n'est pas un artiste Stardust, participe également aux trois projets.
J'allais le dire. Denis Rivet aussi
Denis n'est pas sur le projet Murat, non. Voilà. Il y en a qui sont deux fois.
J'ai failli le dire. Attends,
après, tu sais, c'est les artistes de la région, de la ville de Lyon ou de la région Rhône-Alpes. Donc, évidemment, au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait des doublons. Voilà.
Ouais, mais,
non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne m'auto-attribue une présence d'office sur tous les projet Stardust. Là, c'est vrai que
ce soir, ce sera le cas. Allez. Voilà. Avec donc un extrait. Donc, tu avais choisi de chanter comédie, toi.
Alors, comédie, c'est Frédéric Bobin. C'est ouais. Attends, mais on peut l'écouter. Elle est très bien.
Mais non, c'est l'amour en fuite.
C'est Truffaut. Ouais.
Il faut juste que je dise ma fiche, c'est tout. Hein. Mais c'est l'amour en fuite.
Ouais.
On en parlera après. Stan Matisse.
Soirée que je reste avec toi. Tu veux que nous allions au cinéma?
Non, tout va. Je préfère rester seule, là, marcher un petit peu. Tu es gentil.
Embrasse-moi.
La L'amour en fuite, c'est signé non pas Alain Souchon, mais Stan Matisse. Et surtout un très beau disque ciné Song volume 1, voilà, donc, qui est sorti en 2021.
Oui, alors en octobre 2021. Ouais.
Voilà, donc... des chansons avec forcément un grand monsieur du cinéma et de la chanson. Enfin non, forcément ou pas. Doyon Souchon, Honoré Delerme, Truffaut Souchon, Bréa Lavillier, c'est à la fois des grands réalisateurs et des grands chanteurs.
Ah oui, oui.
Enfin,
c'est marrant parce que sur ce projet-là, tu vois, autant pour Place Hubert-Mounier, on avait un cahier des charges très serré. Autant sur les autres, là, on a laissé carte blanche aux artistes sur les choix des chansons, la façon dont ils voulaient les orchestrer, tout ça. Ouais. En fait, on s'est rendu compte assez vite que les artistes choisissaient souvent des chansons de chanteurs plus que des chansons de films, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je ne fais pas exception, parce que la chanson d'Alain Souchon, c'est Souchon, tu vois. Film de Truffaut, c'est Souchon. Voilà, donc pour le volume 2, on a veillé quand même à ce que ce soit vraiment emblématique des films, même si c'est souvent le cas aussi, mais que les choix des artistes n'aillent pas obligatoirement d'abord vers les chanteurs, tu vois, voilà. On avait et parfois d'ailleurs plein de chansons qui sont connues à travers la carrière des chanteurs et dont on oublie qu'à l'origine ce sont des chansons de films, tu vois. Donc voilà.
Celle de Lavillier, toi, j'avais zappé, tu vois. Par contre, c'est un album essentiellement masculin parce qu'à part Billy et Morican, enfin, à part nos amis de la cour, avec la chanson des jumelles.
Les filles n'ont pas voulu venir.
Non, elles sont venues un peu plus nombreuses pour le projet Aura et Mura quand même. Un peu plus.
Ouais.
Un peu plus.
C'est vrai que sur ces deux projets, je reconnais qu'on n'a pas réussi à solliciter autant de. Il y a moins de parité que sur le premier.
Carmen Maria Vega, vous voulez pas chanter une chanson de.
De Jean-Louis Murat, non.
Non. Une chanson de. Je sais pas, une. Bah, de Jeanne Moreau. Parce qu'il y a Jeanne Moreau, par exemple.
Carmen, elle est sur un super projet en ce moment.
Elle n'a pas le temps.
Sur un hommage à Boris Vian. Et puis, Carmen, elle a toujours 200 idées à la fois. Elle a écrit un livre aussi. Elle a fait un documentaire sur des choses très personnelles aussi. Elle mène plein de projets de front à la fois. Alors voilà, elle n'a pas le temps de se consacrer à des projets alternatifs, on va dire, en ce moment. Elle est vraiment sur plein de choses différentes autour d'elle.
D'accord.
Voilà.
Il y aura forcément un volume 2 ?
Oui, le volume 2
est
en préparation.
Tu l'as dit, Voilà. Avec ? Toujours pareil ?
Avec plein de gens super.
Voilà.
Il y aura peut-être une petite surprise. On est en train de... Ah. Tu vois, on parlait d'artistes un peu plus renommés. Voilà. Il y en aura peut-être sur ce volume 2 de cinéma.
D'accord.
Voilà.
Bien.
Mais
allez.
À voir.
Comme il nous reste quelques minutes, tout d'abord, on va annoncer les concerts de la semaine.
Hein, mm-hmm.
Voilà. Et puis, chacun notre tour, on va annoncer un concert.
Ah,
puis, s'il y a un petit commentaire à faire, en bien ou en mal, toujours forcément en bien. Ouais. Eh ben, allons-y. Allez. Moi je commence.
Non, c'est moi qui commence.
À toi qui commence.
Vendredi
comme
15 avril.
Comme tu veux.
Salle Agenda, qui est une super salle à Lyon.
Ouais.
Nous aurons Anne-Lise Roche et Les Abeilles aussi, avec Nicolas Bacchus.
Voilà, qui s'est rajouté, je crois.
Nicolas Bacchus, super artiste, qui fera partie de Ciné Song Volume 2. Voilà, je peux donner quelques infos.
Qui est venu nous voir la semaine dernière. Gardez sûrement un souvenir marquant.
Mm-hmm.
Ouais, et pas uniquement par rapport à ses chansons. Au Brise-Glace Annecy, c'est Bigger Ranks, c'est complet.
Au Melville à Lyon, qui est une salle aussi avec laquelle on est partenaire au sein de Stardust, ce sera Bred le vendredi 15 avril. Bred qui fera aussi partie du projet Ciné Song Volume 2.
Le monde est grand à Lyon.
Et j'en donne des infos là, ça y est.
À l'Arcadium à Annecy, Hubert Félix Thieffen et Armand Méliès en première partie.
Super bien. Artiste Armand Méliès.
Ouais.
Au Nikesi Gerland, The Dead South, qui est une soirée complète.
Le samedi 16 avril 2022, à tout bout de champ à Lyon, Amélie Les Crayons fera-t-elle partie du disque ? Non.
Non.
Elle n'est plus lyonnaise, c'est pour ça. Elle est bretonne, ils ont plein de
droits. Son manager n'est pas d'accord.
Ah, d'accord. On lui donne le bonjour ? Pas forcément, ok.
Non, mais après, ils font ce qu'ils veulent.
Voilà, c'est business, ça. C'est des requins, surtout.
Non. Bah, après, on a le droit d'être contre aussi, hein, tu vois. Parce qu'on propose un truc qu'il faut toujours dire
exactement,
oui.
Exactement, exactement. On peut dire non, il faut dire non, des fois.
Il faut se donner le droit de refuser les choses.
Voilà.
Le Bœuf sur le Toit, Lons-le-Saunier, recevra Anna Popovic.
Ouais, Peach, c'est une guitariste.
Mais bien sûr, incroyable artiste.
Ouais, incroyable, ouais.
Ah ouais. Ouais, super guitariste.
Mais de blues en particulier.
De blues, ouais, c'est blues.
Un style que tu adores,
et
le blues.
Et oui.
Alors, au Transvendeur de Villeurbanne, Celle quitte plus les Trois Fromages, plus Elmer Footbeat.
Ah, ça va bouger là.
Ouais.
Ensuite, au Moulin de Brennan, L'Entourloupe et The Fat Bastard Gang Band.
Voilà. À l'agenda à Lyon, Les Abeilles aussi, Éléonore Bolcato, sans oublier notre ami Nicolas Bacchus.
À l'Espace 1500 à Amberion-en-Bugey, les Tites Nacelles et les Mirabelle Kitchen.
Nos amis de Tites Nacelles.
Ouais, c'est sûr.
Dimanche 17 avril 2022, au Bar Saint-Antoine, That Simple, qui sera avec nous début mai.
Mm-hmm. Le mardi 19 avril, à l'Épicerie Moderne, Andy Schauff et Elena Delande.
Le mercredi 20 avril 2022, au Transborder de Villeurbanne, Chinese Man, Scratch Bandy Crew et Barra Frequencia, un groupe que déteste notre ami Tonio. Donc on va le dire quand même, c'est complet. Hein.
Mm-hmm. Voilà. Au Brise-Glace, à Annecy, Perséide et Blackbird, en coplateau.
Le jeudi 21 avril 2022, à l'Agenda à Lyon, Lise Avril.
Et pour finir, au Doc Circus de Lyon, Tom Frager et Gwendal Pesra.
Voilà, voilà, voilà. Et toi, les concerts, c'est pour quand?
Ça sera à partir de septembre.
Ah, d'accord.
On a décalé un peu les dates. Il devait y en avoir un peu en avril-mai, mais
d'accord.
On décale. Ouais.
Avant de se quitter, on va écouter un morceau. On aurait aimé en parler plus longuement, mais on en parlera une prochaine fois. C'est l'extrait de l'album Murat M. Non, Aura aime Murat, parce que je ne savais pas que Laurent Wauquiez aimait Jean-Louis Murat.
Bon. Ouais, c'est les artistes de la région Aura qui aiment Murat.
Ah.
Ou les habitants de la région Aura aiment Murat.
Attends, quand même.
Ce ne sont pas les édiles de la région. Ah. Qui, bon, peut-être l'aiment-ils, mais en tout cas, ils ne sont pas présents sur le disque, ça c'est sûr.
Il me semble que la région vous subventionne un peu, non?
Non plus.
Pardon, je l'avais mal compris, pardon.
Non, ils sont contents d'apparaître, mais c'est à titre honorifique.
Ah oui, d'accord.
Ah, c'est compliqué, hein, tu sais, voilà.
J'imagine, dès qu'on parle de culture. Hein,
après, moi, je suis pas, c'est comme ça.
Voilà, tirer sur les marionnettistes, c'est plus facile, effectivement, ouais, d'accord. J'ai rien dit. Cet autre projet aussi, on en parle deux secondes avant des morceaux.
Oui. Dans la même veine que le projet hommage à Hubert Mounier, je connais depuis longtemps un fan de Jean-Louis Murat qui s'appelle Pierre Venet, qui est très actif aussi sur les réseaux pour parler de la culture musicale, locale aussi, qui est un vrai passionné de musique et donc de Jean-Louis Murat.
Et qui a un site internet spécial Jean-Louis Murat.
Oui, qui s'appelle surjeanlouismurat.com.
Voilà, comme un peu certains Dominica, là, truc.
Exactement.
Site, c'est un peu le même genre.
Tout à fait. Ouais. Donc sur jeanlouismurat.com. Ouais. Et c'est vraiment une très belle personne. Et au gré de nos échanges, l'idée est arrivée sur la table de faire un hommage à Jean-Louis Murat comme on l'avait fait pour Hubert Mounier.
D'accord.
J'étais assez sceptique au départ, hein, je le reconnais, moi. Et bien, en fait, j'avais complètement tort parce que ce projet, il a eu aussi un engouement immédiat. Les artistes étaient super heureux qu'on leur propose ça. Le management, Jean-Louis Murat, tout le monde a été OK pour nous laisser travailler. On a fait un album 16 titres qui est sorti en février dernier. On a rencontré Jean-Louis Murat fin mars au Radiant à Caluire, lors d'un de ses concerts, pour lui remettre le CD en main propre. Il nous a écrit un petit message le lendemain pour nous dire qu'il avait écouté, qu'il avait trouvé ça super, super bien. Et il n'a pas arrêté de nous dire qu'il était très touché qu'on lui rende hommage, parce que c'est une personnalité un peu... Voilà, iconoclaste. Ouais, et puis voilà, c'est un album hommage, mais c'est vrai que c'est... Bon, les circonstances font qu'on peut faire des hommages aussi aux gens vivants, c'est super.
C'est mieux, hein.
C'est même mieux, ouais.
C'est même mieux, ouais.
Tu vois, moi qui ne croyais pas trop à ce projet au départ, justement un peu pour ça, parce qu'on allait se dire, mais pourquoi lui rendre hommage? Qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de lui? Mais en fait, on s'en fiche. L'important, c'est, encore une fois, le dénominateur commun, c'est le plaisir. Ouais. On a pris un plaisir fou à faire ce disque.
Ouais.
Moi, j'en suis hyper fier. Je trouve que le disque est magnifique. Que les artistes qui ont participé, Gontard, Nicolas Pogam, Cheval Rex, Pierre Schott, Sylvain Vanneau, Frédéric Bobin, Dragon Rapide, Liverpool, voilà des groupes un peu de là-bas, Adèle Coyot aussi.
Stéphane Pétrier,
ouais, chanteur du Voyage de Noces. Les Pharos aussi sont dans le coup aussi sur cette affaire.
Ah bon ?
Sur le titre, le CD bonus, ouais.
Désolé.
C'est pour ça. Ouais.
Désolé.
Mais qui est disponible en streaming.
J'écouterai.
Ouais. Et on peut l'écouter, c'est très bien.
J'ai pas eu de robot du tout.
Et puis d'autres artistes, les Dorifort aussi. Voilà. Ouais. Bon, et ce disque est super. Je le revendique à 1000%. Et tu vois, voilà, tout le monde, même Murat lui-même, a été très, très étonné, satisfait du résultat. Mm-hmm. Donc voilà, c'est super. On est très très contents et on a d'excellents échos et c'est un disque qui va vivre longtemps celui-là et c'est cool quoi. Voilà.
Voilà,
c'est
donc
bien mérité.
Un album que tu aimais, c'est Lilith. Oui. Malheureusement, qui n'est pas le choix de ton morceau.
Voilà, de oui, c'est pour ça que j'attendais.
Voilà, c'est pour ça.
Mais ouais, mes albums préférés, c'est Lilith, effectivement.
Voilà,
ouais,
voilà,
ouais.
C'est Lilith, mais ce ne sera pas le cas ce soir.
Non, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres de bien. Ouais.
Toi, c'est tout en guitare.
Bah, j'étais en train d'enregistrer mon album quand j'ai fait la reprise de Jean-Louis Murat qui est présente sur Aura et Murat.
Ouais.
Donc, il est très, très guitare aussi, ce titre repris, parce que j'étais en plein là-dedans, moi, tu vois. Je bataille avec mes guitares, donc j'ai mis des guitares sur la chanson « Comme un incendie » de Jean-Louis Murat. Ouais.
Allez, Stan Matisse.
Inutile de me chercher, parmi les morts. Inutile de m'adorer. L'âge de pierre au royaume où tout fabrique du faux. Âme sombre, jour funèbre, que le cœur me paraît pauvre. Le cours ordinaire des choses me va comme un incendie. T'informe de ma présence, c'est un besoin d'infini. J'invoque ta substance. Dans ce purin d'idéaux où tout fabrique des sceaux, pas la chose immuable. Je n'ai plus confiance en vous, le cours ordinaire. Chose me va comme un incendie. Tous les boucs sont enterrés, tous les yaks en moi, tous les rêves, tous les rêves se sont accumulés. Satan voilé est venu visiter l'exposition. Dans curieuse vierge utile, je mets ma tête dedans. Le cours ordinaire des choses me va comme un incendie. Ton mobilier ne change pas. Au terrible hiver où tu m'attends, je ne désespère pas de mourir sans compagnon. Au trou central sans mélange, je remets ma démission de la chose infernale. Comment faire une chanson? Le cours ordinaire des choses me va comme un incendie. We'll be right back.
comme un incendie, extrait de l'album Aura M. Mura. Vous aurez reconnu, bien sûr, Stan Matisse. Hein, un album qu'on peut se procurer. On va voir ça. Où est-ce qu'on peut se procurer, parce qu'il va dire se quitter d'abord. Stan, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à toi, c'était un grand plaisir.
Mais plaisir partagé. Rappelons que ton nouvel album, par exemple, 5775, est sorti depuis le 8 avril 2022. Alors, on peut se procurer où cet album?
Alors, il est disponible à la vente sur les différents sites internet ou pages de réseaux sociaux qui me concernent. Tu vois, Facebook, Instagram, Stan Matisse. Mon site internet, stan-matisse.com. Voilà. Il est disponible à la vente aussi partout, voilà, puisqu'il est distribué. Donc, Fnac, Amazon, Cultura, Gilbert Joseph et tout. Tutti quanti.
Tous les gens qui nous donnent pas d'argent, voilà. C'est dommage. Mmh. Voilà. Ah, ben oui, hein. Mmh. Ils n'en donnent pas, nous, hein. Mmh. Oui, on leur fait de la pub. Ça va être la publicité. Mais dans 4 jours, ce sera terminé.
Alors, bah, autant l'acheter directement sur mon site. Bah,
franchement, là, franchement, entre nous, et en plus, ça te rapporte plus. Alors, attends, c'est bon.
Ouais, ouais. Et puis ça s'écoute.
Ça, de l'argent, c'est bon.
Ça s'écoute partout, hein, sur les plateformes de streaming aussi, mais c'est du même ordre. Ouais.
Donc, sans oublier tes différents projets Stardust, de Stardust, hein, Place Hubert Mounier, Ciné Song Volume 1 et Aura M. Mura. On te retrouve où et quand en concert dans la région proche. En septembre, on en saura plus après l'été.
Oui, voilà, on est en train d'organiser un peu les dates en septembre-décembre, là. Donc, ça sera bientôt publié d'ici fin mai, début juin. On aura un calendrier des dates.
Bien. Bien, nous, la semaine prochaine, Tonio Moncomiateur fera son retour dans l'émission et nous ne serons pas trop de deux pour accueillir un autre Lyonnais, Christian Lehache. Et oui, il nous présentera son nouvel album, Les Rencontres, qui est sorti le 4 mars 2022. Il sera accompagné par son tromboniste, le burgien Gilles Farinon. Ben sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur le 90.0 de Radio B. Stan, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
Hein, bien le bonjour à nos connaissances communes.
Oui.
On n'aura pas d'en parler. Fred Bobin, Denis Rivet, Mehdi Kruger, Faro, Stéphane Pétrier, Delacour, que nous devions accueillir dans 15 jours, mais qui ne peuvent pas venir, c'est malheureux. Yac, Suissa, Stéphane Balminou et les autres.
Il y en a plein.
Ouais. Ça fera un bon concert ici. Ouais.
Quand tu veux pour organiser ça à Bourg-en-Bresse, si t'as... on en parle en antenne.
Oui, une prochaine fois, un prochain siècle. Pour la millième émission.
Très bien.
Elle n'a pas eu lieu encore. Donc,
formidable, c'est
pourquoi
parti.
Pas. Allez, bon concert et puis un de ces jours sur Radio B.
Merci, salut.